Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que Laurent, tu me reçois 5 sur 5? Oui, il me fait de grands signes. Effectivement, nous faisions des essais micro. Alors, il y avait toujours quelques petites incertitudes au niveau technique, mais apparemment, vous me recevez et j'en suis très heureux. Nous sommes très heureux de vous retrouver, comme tous les lundis soirs, sur RTF pour cette émission Cinéscopie consacrée au cinéma et à la musique de film. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 22h30. On va vous parler bien sûr de l'actualité du cinéma et de la musique de film. L'actualité aussi du support physique, Blu-ray, DVD, Steelbook, dans quelques instants. Alors l'actualité du cinéma à Limoges, tout d'abord, eh bien c'est quoi? Eh bien c'est à la fin de la semaine, au Lido, jeudi plus précisément, la projection du classique de Jack Arnold, L'homme qui rétrécit. Eh bien oui, vous avez pu voir la version de Yann Kounen avec Jean Dujardin, mais c'était un remake. L'original, le film de 1957, vous sera donc proposé sur grand écran au Lido ce jeudi, le jeudi qui vient là, jeudi soir. Et allez-y, vous allez voir, c'est vraiment formidable. Et c'est toujours bien de redécouvrir les classiques sur grand écran. On reste au Lido d'ailleurs parce que vendredi soir, le vendredi 12 plus précisément, la soirée sera consacré à Damien Chazelle avec deux films, Whiplash et La La Land, deux films exceptionnels à découvrir ou à redécouvrir dans les meilleures conditions. Donc c'est vendredi soir, donc jeudi 11, n'oubliez pas, c'est L'homme qui rétrécit de Jack Arnold, et puis le lendemain, vendredi, à partir de 19h30, soirée Damien Chazelle au Lido avec Whiplash, qui est vraiment formidable, suivi de La La Land qu'on adore. Voilà, alors l'actualité de la musique de film maintenant, eh bien elle va nous transporter à Nîmes, aux arènes de Nîmes, fin juin 2026, avec la venue de Joe Hisaishi, le compositeur fétiche de Takeshi Kitano et de Hayao Miyazaki, qui viendra donc interpréter ses plus belles musiques de films dans les arènes de Nîmes, un lieu magique pour ce type de concert. Laurent et moi d'ailleurs, avec Serge à l'époque, l'avions expérimenté, puisque nous étions allés voir Ennio Morricone dans ces arènes. C'est vraiment formidable. Alors il y a déjà, alors attention, c'est à partir de demain, si ça vous intéresse, que vous pourrez pré-réserver vos places pour le concert de Joe Hisaishi qui aura lieu le dimanche 28 juin 2026 à partir de 20h30 le soir. Voilà, donc dimanche 28 juin aux arènes de Nîmes. Alors aux arènes de Nîmes d'ailleurs, il y a quand même pas mal de choses intéressantes cette année, et notamment un ciné-concert Gladiator, mais là à ma connaissance c'est déjà complet. Donc voilà, mais il y a d'autres artistes invités qui peuvent vous intéresser, comme Sting, Lenny Kravitz ou encore Neil Young. Donc voilà, je pense que là on a de quoi se régaler au mois de juin, juillet prochain aux arènes de Nîmes. Voilà, eh bien on est très heureux de vous retrouver, voilà, pour vous parler des films que nous avons vus, bien sûr, une actualité assez riche et qui continue à l'approche des fêtes. Et puis je me tourne vers Laurent, je vais lui citer, voilà, je lui dis bonsoir, voilà, comment vas-tu?
Bonsoir, eh bien je vais très bien, et vous, comment allez-vous? Avez-vous fréquenté les salles obscures? Avez-vous écouté nos conseils la semaine dernière?
Alors quand même, il faut quand même qu'on dise quelque chose, c'est que, en tout cas en ce qui me concerne, j'attendais un film avec une grande impatience, oui, c'est oui. Le dernier film de Jackie Chan, oui. Shadow's Edge, malheureusement qui n'est pas sorti à Limoges, et en recherchant d'ailleurs, j'ai vu que le film malheureusement n'était sorti que dans quelques villes françaises. Voilà, je pense que peut-être que c'est un, le nombre de copies est limité sur ce film, je ne sais pas, c'est un peu curieux, ou est-ce que c'est un choix des exploitants de venir?
Alors, je crois qu'il y a la durée aussi, ouais. Qui fait que peut-être c'est un, je dirais, un handicap, étant donné que bah, il y a quand même pas mal de sorties, et puis il y avait aussi ce film de Abdelkader Kechiche qui était Mektoub, qui était un film aussi un petit peu long, donc tout ça a fait que bah, ça limite le nombre de séances. Alors peut-être que on aura ce film là en différé, enfin en tout cas on l'espère, parce que malgré tout le film a rencontré un vif succès en Chine, Et du coup, ça serait bien quand même qu'on puisse le voir, parce que bon, le grand retour de Jackie Chan, mais je crois que le film en lui-même, à mon avis, vaut le détour aussi. Donc,
On l'attend avec impatience. Mon cher Laurent, il est 21h et bientôt 2 minutes à la pendule de RTF. Nous allons commencer cette émission, comme d'habitude, en musique. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé pour commencer?
Alors, un petit cocktail. Allez, on va partir pour rendre hommage à Disney. Parce que bon, voilà, chaque année... On a quand même voilà la production Disney. Cette année, c'est Zootopie 2 qui a extrêmement bien démarré.
Ah oui, il y a du monde.
À l'international, je crois qu'il est en pole position. En tout cas, c'est un vif succès de fréquentation en salle.
Et qui attire tous les âges.
Voilà. Donc, on a décidé de rendre hommage quand même au passage à Disney, parce que bon, c'est quand même une sorte de, je dirais, de coutume. Chaque année, il y a une production Disney.
Voilà, puis bon, Disney, c'est quand même, il a nourri aussi nos imaginaires d'enfants, il faut pas le nier, donc avec des dessins animés qui merveilleux, hein, comme évidemment Blanche-Neige, Pinocchio, on se souvient avec un plaisir non dissimulé de ces films qui parfois nous ont effrayés, parce que c'est vrai que moi, le premier film que j'ai vu en salle, me semble-t-il, c'était Blanche-Neige, et c'est vrai que bon, cette scène de la transformation de la reine en sorcière, c'est quand même quelque chose, hein.
Oui. Et puis bon, il faut. Alors c'est vrai que peut-être que même si les jeunes générations ont vu les quand ils étaient très très jeunes, les premières réalisations de Disney, il faut quand même se projeter aujourd'hui. Quand on est adulte, voir un petit peu le travail qui était fait à l'époque, qui était vraiment un travail titanesque. Oui. Parce que tout était dessiné à la main, forcément il y a quelques petites imperfections, mais on touchait quand même l'excellence sur quelque chose de totalement artisanal, et donc pour le coup c'est des classiques qui resteront bien sûr dans l'histoire de l'animation. Et ce soir, on a décidé de vous proposer deux musiques de production réalisation Disney. Alors très connue, hein, la première, c'est La Belle et la Bête. Ouais. La musique signée Alan Menken, qui fait partie quand même d'une belle composition et un beau registre classique symphonique. Et l'autre, ça concerne forcément Le Roi Lion, qui, je pense, fait partie de ces bandes originales chez Disney, qui a culminé dans les ventes et aussi dans les mémoires, parce que voilà, ça reste quelque chose signé Hans Zimmer et
Elton John.
Et Elton John.
C'est vrai que c'est le ticket gagnant, là, on peut dire, cette BO.
Oui, parce qu'Elton John, grand mélodiste aussi, on le présente plus, il a bercé. Des années et des années de nos rêves pop, je dirais.
Ça il fait partie vraiment de nos existences, et voilà, un auteur talentueux qu'on adore et qu'on retrouve dans ce Roi Lion. Ça fait quand même deux beaux dessins animés en plus, quand même, Le Roi Lion et La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, franchement, j'ai été surpris par la qualité du film, en fait. Là, on a retrouvé un certain standing dans l'animation.
Je pense que, si on resitue un petit peu le film dans le contexte, la remise à niveau de Disney, parce que je crois qu'il avait enchaîné quelques années les quelques années précédentes, il avait un petit peu végété, avec des résultats qui étaient quand même en demi-teinte, et La Belle et la Bête arrive pour en fait un petit peu relancer le studio sur quelque chose d'un petit peu plus traditionnel, un retour aux sources, je dirais.
Il y avait peut-être, je crois que c'était avant Notre-Dame de Paris, j'ai un doute.
Il me semble.
C'était pas mal, ça aussi, quand même.
Oui.
Mais c'est vrai que La Belle et la Bête, bon, ils ont fait très très fort et le film a remporté des Oscars.
Hein, tout à fait. Donc on va commencer par cela. Alors c'est pas les versions originales, hein, mais ce sont comme on a l'habitude, parce que c'est, pour nous c'est une référence hein, en termes d'interprétation. Ce sont des interprétations interprétées par le Cincinnati Pops Orchestra, dirigé par Eric Kunzel. Mmh. Voilà. Donc, souvent, c'est de qualité parce que voilà, c'est un très très bon orchestrateur et c'est des versions qui sont vraiment de talent avec beaucoup d'énergie. Donc, on va débuter cet hommage par eh bien, la Belle et la Bête et on finira par Le Roi Lion. On se donne rendez-vous dans 8 petites minutes voilà, pour eh bien, entamer la rubrique vidéo. Vous parlez, ben, quelles sont les nouveautés ça n'arrête pas, hein, je vais vous dire. Jusqu'à, on va dire, un petit peu plus de mi-décembre, ça déboule, forcément, pour être, eh bien, sous le sapin à l'heure. Et donc, voilà, les éditeurs n'arrêtent pas. Et à savoir aussi que c'est plutôt une bonne chose. Peut-être qu'on débattra un petit peu plus dans la rubrique vidéo. Mais en tout cas, le premier semestre 2026 s'annonce assez fabuleux en termes de sortie parce que tout simplement même si c'est un petit peu en deçà par rapport à la moyenne, mais le support qui rencontre toujours des difficultés même si il y a je dirais un engouement, eh bien on annonce pas loin de 800 sorties sur le premier semestre, ce qui est quand même assez énorme.
C'est voilà. Considérable.
Allez, tout de suite l'hommage à Walt Disney.
Eh bien, après La Belle et la Bête et Le Royaume, nous allons parler de la vidéo, de l'actualité du support physique. Alors, Laurent s'escrime aux manettes parce qu'il devait nous envoyer le jingle vidéo, mais bon, apparemment, on vous dit tout, hein, on vous entraîne dans les coulisses de l'émission. Apparemment, là, il y a un bug. Bon, c'est une chose qui arrive, hein, ma foi. Bon, je ne sais pas si Laurent est en mesure de nous envoyer la petite musique jingle de la rubrique vidéo. Je me tourne vers lui. Il a l'air assez dubitatif quand même, donc je pense que je vais peut-être commencer la rubrique sans le jingle, mon cher Laurent, je sais pas ce que tu en penses. Ben voilà. La rubrique vidéo, ça y est, la voici, la voilà. On est content d'avoir retrouvé James Horner au passage. Donc, bon, c'est une chose qui arrive. Alors oui, il y a quand même de belles choses qui sortent, hein, parce que c'est encore à l'approche des fêtes, il y a quand même pas mal de nouveautés. Alors tout d'abord, je voudrais vous parler de Francis Ford Coppola, qui est à l'honneur chez Pathé, et qui vous propose, dans une très belle édition 4K, donc en ultra haute définition, le film Outsiders, les Outsiders, un film qui mettait en scène en 1983, c'est Thomas Howell, Ralph Macchio et Matt Dillon. Un film qui nous transporte à la fin des années 50. Des bandes rivales de quartiers riches et pauvres de l'Oklahoma font basculer deux préadolescents dans la spirale de la violence. Voilà, un film vraiment formidable que moi j'avais découvert au cinéma, d'ailleurs en reprise. Hein, je l'avais pas vu à l'époque de sa sortie. J'avais vu la reprise de ce film et un film avec une distribution vraiment incroyable où l'on rencontre toutes les ces jeunes acteurs qui vont devenir des stars du cinéma américain finalement. Et voilà, et donc c'est un film qui vous est présenté donc dans une édition combo, c'est-à-dire que vous avez effectivement une galette UHD et puis deux Blu-ray, un Blu-ray avec le film et un Blu-ray de bonus. Alors là, attention, c'est une édition bardée de bonus, autant vous le dire tout de suite. Quant à la qualité de l'image, eh bien voilà, c'est nickel. Hein, on a on pourrait dire une édition de référence, pareil pour le son, voilà, on est vraiment dans l'excellence avec ce film de Francis Ford Coppola, The Outsiders. Moi j'adore ce film, franchement, voilà, il y a des acteurs magnifiques. Alors Ralph Macchio, je ne sais pas si on dit Ralph Macchio ou Ralph Macchio, vous le connaissez parce que c'est l'acteur qui jouait le rôle principal de Karate Kid, hein, voilà, et donc à l'époque, d'ailleurs c'est à l'époque qu'il fait Karate Kid, Ralph Macchio ou Macchio, voilà. Bon, je voulais aussi vous signaler la parution, j'en avais dit un petit mot la semaine dernière, d'un film assez spectaculaire qui raconte une histoire vraie d'ailleurs, qui a mis fin à l'exploitation de la prison d'Alcatraz. Le film s'appelle en anglais Murder in the First et chez nous en France c'est devenu Meurtre à Alcatraz. Dans ce film, un jeune avocat tente de sauver de la peine capitale un homme accusé du meurtre d'un co-détenu à la prison d'Alcatraz. Les rôles principaux, là aussi c'est un casting 3 étoiles, Kevin Bacon dans le rôle du détenu, Christian Slater qui joue le rôle de l'avocat et Gary Oldman, lui c'est le directeur de la prison. Voilà, un film réalisé par Marc Rocco en 1994, c'est le dernier film d'ailleurs de Marc Rocco. Alors ça m'avait un peu surpris, je vous en avais parlé la semaine dernière, parce que j'ai dit, c'est bizarre, il n'a pas fait d'autres films. C'est vrai que le film sort en 1995 et Marc Rocco va s'atteler à la préparation d'un autre long métrage, un biopic consacré à Janis Joplin. En fait, il n'aura jamais le temps de le faire parce que, en 2006, Marc Rocco décède. Alors, on ne sait pas trop, apparemment, de mort naturelle. On ne sait pas trop ce que c'est, rupture d'anévrisme, on ne sait pas. En tout cas, il meurt à l'âge de 46 ans. Donc, il est jeune et, malheureusement, voilà. Heureusement, quand même, pour nous, il aura fait un chef-d'œuvre, c'est ce meurtre à Alcatraz. Et alors, pour la petite anecdote, Marc Rocco, c'est le fils de l'acteur Alex Rocco, que vous connaissez peut-être parce que Alex Rocco jouait aux côtés de Barbara Hershey dans le film L'Emprise, qui est un film fantastique, assez réussi d'ailleurs, de Sidney Gifford. Donc Meurtre à Alcatraz vous est proposé en ultra haute définition chez Studio Canal. Ben les bonus, bon il y en a quelques-uns, mais bon, il y en a pas énormément. C'est un peu dommage pour cette édition. Par contre, c'est vrai qu'en termes de d'image, eh bien, c'est du pain béni. On a là, on a une image vraiment qui est vraiment extrêmement définie. C'est sublime. Le son, pareil. On a une édition là nickel chrome. Vraiment, c'est. Je vous conseille vraiment d'acheter cette édition. Et puis alors, en plus, la musique de Christopher Young, elle est absolument incroyable. Donc je vous la conseille. Alors il y a quand même un petit défaut sur cette édition de ce Meurtre à Alcatraz, c'est le visuel. Je trouve que le visuel de la jaquette ne rend pas vraiment hommage au travail du directeur photo du film, parce que dans le film est tourné en scope et la photographie est vraiment à tomber. Hein. Il y a un travail du chef-op exceptionnel. D'ailleurs, le film a été restauré avec la collaboration du chef-opérateur du film. Donc ça, c'est vous dire que le plus grand soin a été apporté à la restauration de ce film. Voilà, c'est dommage que la jaquette du film, voilà, bon, elle est pas mal, mais sans plus. Moi, j'aurais préféré à la limite l'affiche du film telle qu'elle était parue. Maintenant, un film français, un film réalisé par Robin Campillo sur un scénario de Laurent Canté. En fait, c'est Laurent Canté qui avait préparer ce film, et puis voilà, suite à son décès, c'est finalement Robin Campillo qui avait fait le film 120 battements par minute, qui prend la relève et qui réalise ce film qui s'appelle Enzo. Alors on en avait parlé hein, de ce film dans Cinéscopie, d'ailleurs on avait plutôt bien aimé ce long métrage. L'histoire d'un adolescent mal dans sa peau et dans sa classe sociale, qui tente d'échapper à son statut privilégié en voulant devenir maçon. Voilà, alors, au grand désespoir de son père, interprété par l'acteur italien Pier Francesco Favino, comme d'habitude, formidable. Et la mère est interprétée par Élodie Bouchez,
oui,
qui est formidable aussi dans le film.
Oui, ils sont tous formidables. Hein.
Ouais, même le jeune, d'ailleurs. Le
jeune, c'est une belle découverte. Ouais. Il a vraiment beaucoup, beaucoup de talent.
Voilà, donc, c'est Ad Vitam qui vous propose ce Blu-ray. C'est un Blu-ray. Bon, ils auraient pu faire un UHD, mais bon, c'est quand même pas mal. On a un Blu-ray. Parce que des fois, sur ce type de film, c'est directement DVD. Quoi.
Là, je crois que là, on peut que s'en féliciter. Parce que... voilà.
Mais malgré tout, la qualité du transfert est incroyable. Là aussi, c'est nickel chrome, que ce soit l'image ou le son. Voilà, on est dans l'excellence du Blu-ray, donc il n'y a pas de souci. Donc je vous conseille de voir ce Enzo, parce que c'est quand même... moi, je trouvais que c'est plutôt une bonne surprise, en fait.
Oui.
Puis on avait bien aimé quand même aussi dans l'émission. Et puis, je voulais vous signaler quand même, parce que tout à l'heure je vous parlais de Outsiders, mais toujours chez Pathé, il y a un deuxième film, d'ailleurs qui réalisé à l'époque de Outsiders, un petit peu avant, c'est Coup de cœur de Francis Ford Coppola, toujours donc avec Frédéric Forrest, Terry Garr et Raoul Julia, film mis en musique par Tom Waits, et c'était en 1981. L'histoire d'un couple en crise qui, le temps d'une nuit à Las Vegas, rencontre chacun de son côté le partenaire de ses rêves. Ouais, c'est une comédie romantique, alors qui n'a pas rencontré le succès escompté. Peut-être que le film est un peu inégal, peut-être, mais il y a quand même des images quand même assez marquantes dans ce film Coup de cœur, et le film vous est présenté en ultra haute définition. Donc là aussi, c'est un combo avec la galette UHD et puis le Blu-ray du film, ainsi que le Blu-ray un Blu-ray de bonus. Là aussi, énormément de bonus sur des interviews, des making-of, c'est formidable. Et bien là aussi, en termes d'image, on a un transfert nickel chrome. Vous allez en prendre plein les mirettes. Et c'est l'occasion aussi de retrouver cette actrice, Terry Garr, j'ai toujours aimé cette comédienne. Elle n'a pas eu peut-être la carrière qu'elle méritait, mais elle est toujours très attachante dans les rôles qu'elle a tenus au cinéma. Voilà, donc je vous conseille bien ce soir de vous procurer ce Meurtre à Alcatraz et Outsiders de Francis Ford Coppola. Moi, j'adore. Alors, Laurent, quelle est ta sélection ce soir ?
Eh bien, on va commencer par un classique, un film de guerre, mais assez peu connu.
Ah.
Réalisé en 1970, c'est une coproduction italo-yougoslave avec Alain Cuny, Gian Maria Volonté et Marc Frecciete.
C'est pas mal, la prononciation est bien.
La musique est de Piero Piccioni. Et donc, le film s'intitule, film très très intéressant, que je vous conseille, parce que rares sont les films qui abordent en tout cas ce sujet-là. Il s'intitule Uomini contro, c'est les hommes contre.
Ah oui.
Donc ça vient de sortir chez Colored Film, un petit label, et le film a été réalisé par Francesco Rossi. On est pendant la Première Guerre mondiale, et donc des soldats italiens d'origine paysanne sont sacrifiés dans la lutte contre les troupes autrichiennes. Il faut remonter forcément au très connu Sentier de la Gloire, et aussi pour l'exemple, afin de pister le souvenir d'une peinture aussi impitoyablement critique de l'institution militaire en temps de guerre, d'une violence graphique impressionnante, ponctuée de combats à la logistique, à la mise en scène et à l'esthétique magistrale. Le film s'achève sur une séquence dont la noblesse tragique marque durablement. C'est déjà paru en Blu-ray et en DVD aussi, et je vous conseille fortement ce film, avec une très très belle restauration. Savoir que bon, le film a quand même plus d'un demi-siècle, donc c'est à voir et surtout à ne pas manquer. Autre film, bah là on va attaquer sur des quelques petits films d'horreur. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, j'en pense que du bien.
Alors, il y a une très très belle édition qui est sortie sur ce film réalisé cette année. Donc là encore, multi-production. Hein. Il y a Norvégien, Danemark, Roumanie, Pologne, Suède. Pour ce film interdit aux moins de 16 ans. Réalisé par Émilie Blichfeld, avec Léa Mirren, Théa Sof, Loch Ness et Flo Fagerl. Et donc le film s'intitule The Ugly Stepsister, qui raconte l'histoire d'une jeune femme dans un royaume où la beauté règne en maître. Eh bien, doit faire face à une redoutable concurrence, dont celle de sa demi-sœur, pour conquérir à tout prix le cœur du prince. Et donc, pour son premier long métrage, la réalisatrice norvégienne livre une comédie horrifique, à la fois esthétique et morbide, à souhait sur le mythe de Cendrillon, donc un savant mélange de sons, d'humour noir, d'ironie, de transgression et de réflexion, notamment sur la chirurgie esthétique, et qui en fait soulève autant le cœur qu'il fait réfléchir sur le sujet. Voilà. C'est édité par ESC Film. Je crois qu'il y a une édition métal qui regroupe le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Voilà. Donc, c'est à voir.
Oui, on est un peu dans ce qu'on appelle le body horror.
Voilà. Autre film, on continue dans l'horreur. Là, c'est un film de 2023, toujours interdit aux moins de 16 ans, réalisé par Chris Nash, avec Ray Barrett, Andrea Pavlovic, Cameron Love, In a Violent Nature. Je sais pas si.
Oui, c'est un slasher apparemment un peu auteuriste, si
oui.
Je puis dire.
Oui. C'est l'histoire d'un tueur en série. On est dans, dans l'Ontario, qui n'a pas digéré de s'être fait voler un bijou de famille et qui sort de sa tombe pour décimer un groupe d'adolescents. Ça, c'est original comme...
oui, effectivement.
comme pitch. Et donc, je vous le dis tout de suite, hein, on parle d'horreur, mais là, par contre, il faut quand même avoir le cœur bien accroché pour endurer les atrocités perpétrées avec flegme et sans l'ombre d'un remords par ce meurtrier zombie dont ce slasher contemplatif hein, adopte presque exclusivement le point de vue de le filmer de dos. Il y a peut-être une seule scène assez éprouvante d'ailleurs en gros plan qui dévoile son visage. Voilà. Atrocement mutilé d'ailleurs au passage.
Oui. Il paraît qu'il y a une scène de meurtre assez gratinée quand même dans le film.
Oui. Je confirme. Et donc voilà, c'est une sorte de jeu de massacre, hein, ultra gore. Et donc la seule chose, c'est que le film paraît un petit peu inachevé. C'est dommage parce que ça reste quand même une si on peut dire, une belle expérience. Allez, on reste dans l'horreur, mais là, c'est un film que l'on a vu dans Cinéscopie. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu, je ne sais pas si Chris l'a vu. Film de 2025, cette année, interdit, là encore, au moins de 16 ans. Assez original aussi, hein, de Michael et Danny Philippou, avec Sally Hawkins, Misha Heoud et Jonah Wayne Phillips, film australien, qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui découvrent, après la mort de leur père, eh bien, un rituel terrifiant dans la maison isolée de leur nouvelle mère adoptive.
Ouais. Je crois que ça s'appelle Substitution.
Voilà.
Ça, c'est effectivement excellent.
Bring her back.
Ah oui, formidable.
Et donc, 3 ans après leur remarquer la main, hein, qu'on avait d'ailleurs chroniqué dans Cinéscopie, qu'on avait beaucoup aimé aussi, eh bien, les frères Philippou continuent l'essai avec ce thriller horrifique, éprouvant, hein, qui plonge le spectateur dans un profond malaise dès les premières minutes. Et donc, un récit d'horreur psychologique, à la fois morbide, poisseux et aussi créatif, porté par une brochette d'acteurs particulièrement efficace, parce que là vraiment on est manipulé quand même assez facilement par ce film, et donc on le doit à SPHE, Sony, qui vous le propose. Donc,
en plus il y a une très belle photo, il y a vraiment je sais plus qui est le chef-op, enfin, c'est franchement, le film est très réussi. En plus, Sally Hawkins, qui joue le rôle principal, elle est vraiment démentielle. Franchement, on ne peut que recommander ce film. Un film d'horreur, on pourrait même dire un film fantastique aussi, quand même. Hein. Mais enfin, on ne va pas trop en dire. Il faut vraiment laisser les spectateurs découvrir ce film diabolique.
Et donc, film de 2001 pour en terminer, parce que tu parlais de Meurtre à Alcatraz. Eh bien, il y a un polar aussi, parce que bon, on est un peu nostalgique de ces policiers, parce qu'on n'en voit pas énormément sur nos écrans. En tout cas, des policiers des films policiers de qualité. Et là, c'en est un, réalisé en 2001 par Sean Penn, avec Jack Nicholson, Robin Wright, Aaron Eckhart, musique au passage signée Klaus Badelt et Hans Zimmer, pour ce film The Pledge, qui vient de sortir chez BQHL. Alors ça, c'est une petite pépite, parce que c'est pas trop dans la ligne éditoriale de l'éditeur, donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et donc, qui raconte l'histoire d'une enquête à la veille de sa retraite, une enquête difficile qui bouleverse les projets, les convictions et la vie d'un flic, joué par Jack Nicholson, qui est vraiment excellent dans le film. Et donc, après Crossing Guard, le réalisateur retrouve Jack Nicholson, auquel il offre un rôle d'une grande force, entre polar et tragédie, l'intrigue pousse à réfléchir et nous conduit à la frontière du choc et du plaisir. Voilà, c'est vraiment, en tout cas, peut-être un des meilleurs films de Sean Penn et aussi de Nicholson, parce que il joue le rôle vraiment de l'acteur sur un petit peu au crépuscule de sa carrière, je dirais. Mm-hmm. Mais franchement, là, on tutoie quand même des sommets, tant scénaristiquement que dans l'interprétation. Franchement, moi, j'ai été vraiment bluffé par ce film à l'époque. Ça a le mérite de sortir en Blu-ray, c'est déjà paru, et en DVD, mais surtout en haute définition quand même.
Ça donne envie de le voir. C'est vrai que le film m'avait échappé à l'époque et je pense me procurer cette édition parce que franchement, tu en as bien parlé. En plus, j'aime beaucoup Jack Nicholson, donc voilà. Ça manque un peu.
Je suis un grand fan aussi, donc
voilà.
Bon, après, il a fait quelques films aussi, un petit peu plus médiocres. Ben là, pour le coup, là, on touche quand même. Si vous voulez vous regarder un policier que vous ne connaissez pas et de qualité, il faut regarder The Pledge.
Eh bien, merci Laurent pour cette sélection. Alors évidemment, il y a des choses qui vont sortir, on vous en parlera encore lundi prochain. Il y a, Laurent, vous en parlez, un planning de sortie particulièrement fourni à partir de janvier prochain. Tu nous parlais de quoi, de 800 sorties hein, sur le
800 sorties sur le premier semestre.
Ah oui, c'est énorme.
C'est énorme. Et donc ça montre la détermination quand même des éditeurs sur, je dirais, la détermination de poursuivre le soutien, en tout cas, qu'ils peuvent donner sur le support physique. On déplore quand même au passage, c'est quand même l'amorce, Disney, on en revient à cette maison de production qui a avalé quand même une grande partie de plusieurs catalogues incontournables, et qui décide petit à petit de ne plus trop, en tout cas, médiatiser ses sorties physiques. Mmh. On ne sait pas trop, le tournant que ça va avoir, mais si, l'éditeur décide de ralentir fortement, comme il l'a déjà fait dans certains pays, en tout cas, où il ne sort quasiment plus de titres en support physique, ça serait quand même fort dommage, en tout cas.
Oui, c'est vrai qu'on voit que de plus en plus, les plateformes sont quand même favorisées, mises en avant. Et d'ailleurs, ça m'inquiète un petit peu, parce que je ne sais pas où ça en est. D'ailleurs, Netflix était sur le point de racheter Warner pour 71 milliards d'euros, je crois. D'ailleurs, c'est un truc énorme. Donc, si Netflix absorbe Warner, qu'en sera-t-il justement des films Warner sur grand écran? Est-ce que ça va pas plutôt gonfler évidemment la production sur les plateformes?
Disons que c'est un petit peu inquiétant, parce que Warner France, la logistique qui assurait la distribution va fermer totalement. Mmh. Donc on ne sait pas trop le devenir là encore. De cette distribution-là, c'est assez inquiétant aujourd'hui, parce que nous, on défend fortement le support physique. Il y a beaucoup de personnes qui consomment encore du support physique, et à juste titre, parce que vous avez quand même une totale liberté. Et aussi, on ne veut pas politiser en tout cas le débat, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas, en tout cas, on ne soutient pas de payer tous les mois quelque chose qu'on ne possède pas.
C'est
quand même quelque chose qui, en tout cas, me chagrine beaucoup. Voilà.
Sur ces considérations, Charles-Laurent, nous allons faire une pause musicale. Il est 21h41 à la bande du RTF.
Alors, comme dans la sélection vidéo, on balaye, je dirais, on survole des décennies de cinéma. Et musicalement, c'est pareil.
Et oui. Alors,
on a rendu hommage à Disney à travers deux bandes originales de films. Et puis, si je vous parle de ce film-là, eh bien, vous allez me dire, mais c'est encore un film à Disney. Eh bien, non.
Ah, alors, tu m'intrigues.
Eh bien, non. Parce que tout simplement, on va écouter la musique du film Jungle Book.
Ah, le livre de la jungle.
Le livre de la jungle.
Mais c'est pas Disney, là, alors.
C'est pas Disney. Ah. C'est la version réalisée en 1942. Réalisée par Zoltán Korda. Mmh. Et musicalement, eh bien, c'est l'excellence. Miklós Rózsa, qui est en fait. À la baguette et plutôt au crayon, parce que c'est là on va pas écouter une musique qu'il dirige parce que c'était une première mondiale à l'époque quand le disque est sorti et donc c'était chez Feu Colosseum et donc sur cet album était présent donc la musique du livre de la jungle mais aussi Le voleur de Bagdad. Voilà.
Oui, c'est pas un hasard, puisqu'en fait, les deux films sont produits par les Korda, en fait.
Tout à fait.
Donc, et oui, effectivement, Miklós Rózsa, on peut dire, a explosé sur la scène internationale avec le score de ces deux films. C'est Le voleur de Bagdad et puis Le livre de la jungle, effectivement. Mmh. Et donc, ouais, c'est effectivement, c'est deux films qui sont tout à fait merveilleux. Hein. C'est vrai qu'ils n'ont rien à envier. Finalement à Disney finalement donc on est très heureux de retrouver ce soir en musique alors, grâce à Miklós Rózsa.
Alors j'ai fait une petite erreur parce que
oui.
En fait ce n'est pas le livre de la jungle on va écouter mais le voleur de Bagdad.
C'est le voleur de Bagdad
parce que le livre de la jungle tout simplement ça serait intéressant peut-être qu'on vous le diffusera dans une émission
oui.
C'est une suite symphonique qui dure quasiment une demi-heure voilà.
Oui donc là on avait trop le temps. Mais d'ailleurs, attends, me semble-t-il, je voudrais pas dire de bêtises, est-ce que chronologiquement, c'est pas, enfin, dans la réalisation, c'est pas d'abord le livre de la jungle, puis le voleur de Bagdad?
Non, c'est le voleur
c'est
de Bagdad d'abord.
C'est d'abord Bagdad.
Qui date de 1940.
Ouais.
Et donc, alors que le livre de la jungle date de 1942, c'est deux ans plus tard, en fait.
Oui.
Et donc, on y retrouve, eh bien, Sabu.
Ah oui, le même acteur. Oui.
Et oui. John Justin, June Duprez, et Conrad Veldt, Rex Ingram, pour ceux, et Miles Mallison. Alors, je crois que de mémoire, me semble-t-il, il y a eu une édition DVD à l'époque pour ce voleur de Bagdad.
Je crois que c'est chez Canal Plus. Je crois qu'ils avaient sorti dans la collection cinéma de quartier, me semble. Ou alors, enfin, il me semble que c'est chez Canal.
C'est possible, mais je me demande s'il n'y a pas eu aussi une édition assez médiocre de Films sans frontières.
Oui, mais je me demande si la paternité aussi. Mince, je suis dans une belle édition, c'est marrant. Bon, bref, on va fouiller.
On va regarder ça et on va vous dire. Allez, on écoute cela. Et sur un thème romantique, L'amour éternel, signé Miklós Rózsa.
Le voleur de Bagdad.
Et dirigé, parce que quand même, passage. Dirigé par l'orchestre symphonique de Nuremberg, dirigé par Klaus-Peter Seibel. Voilà.
Très bien.
Allez, tout de suite,
le voleur de Bagdad.
Le voleur de Bagdad, voilà. Miklós Rózsa.
Thank you.
Film de la semaine, ce soir.
Eh bien, ce soir, nous allons vous parler de Wicked, Wicked 2, ainsi que de Dossier 137, le film de Dominique Moll, et Vie privée, le film de Rebecca Zlotowski avec Jodie Foster, Daniel Auteuil. Voilà, on commence peut-être par je ne sais pas, Laurent. On peut commencer par exemple par Dossier 137, peut-être. Dossier 137, le film de Dominique Moll. Ensuite, on reparlera de Wicked 2. Et on terminera par Vie privée. Voilà, voilà le programme. Voilà. D'office. Si on a le temps, on vous parlera peut-être un petit peu aussi de Fury, le film de Mario Marton avec Valeria Golino, que nous avons également vu cette semaine. Alors, dossier 137, le nouveau film de Dominique Moll, qu'on connaît bien parce que il a remporté déjà de grands succès au cinéma avec Harry, un ami qui vous veut du bien, Lemming, et plus récemment La Nuit du 12. Donc dans ce dernier film, eh bien Dominique Moll fait appel à une belle distribution et notamment à Léa Drucker qui me semble tout à fait épatante dans le rôle. Je me tourne vers Laurent parce que moi je vous l'avoue, je n'ai pas vu ce film. Donc j'attends avec impatience l'avis de Laurent sur ce dossier 137.
Eh bien, Dominique Moll qui met en scène en fait une enquêtrice jouée par Léa Drucker de l'IGPN, confrontée donc à une bavure policière, sujet brûlant hein, pour un film qui évite peut-être soigneusement de se mouiller. D'ailleurs, je pense que ça aurait été peut-être un petit peu difficile d'ailleurs de se positionner. Je pense que c'est plutôt d'être, je dirais, neutre, en tout cas, de relater une histoire qui est basée en fait sur des éléments tout à fait réels. Hein. D'ailleurs, c'est annoncé dès le départ du film. Et donc, après La Nuit du 12, Dominique Moll mélange à nouveau donc les coulisses en fait de l'institution policière et le fait divers. D'ailleurs, il adopte cette fois le point de vue d'une enquêtrice de l'IGPN confrontée à une potentielle bavure de la BRI, donc un tir de LBD qui ayant blessé grièvement un jeune homme dans le contexte d'une manifestation tendue. Alors que les policiers impliqués plaident la légitime défense, elle tente de faire toute la lumière sur cette affaire, quitte à se mettre ses collègues à dos, et donc une affaire fictionnelle qui s'inspire évidemment de la réalité et que Dossier 137 s'obstine à traiter avec une froideur administrative. C'est peut-être d'ailleurs je dirais la force de ce film, c'est-à-dire qu'en fait montre un petit peu les méandres de cette enquête on va dire que bah, c'est un cinéma certes oui de bureau parce que de toute façon c'est une sorte d'enquête rétrospective de formulaires à remplir de scènes d'interrogatoire c'est ponctué d'éléments policiers qui en fait amènent à découvrir un petit peu les rouages de ce genre d'enquête qui est assez intéressante parce que tout simplement on est assez peu habitué à ce genre de cinéma on voit en fait cette enquêtrice qui est aussi dans une sorte de labyrinthe parce qu'en fait elle rencontre de façon directe eh bien les personnes qui entouraient en fait le décès de ce jeune homme, hein, de cette famille, parce qu'en fait il y a un lien direct entre elle et donc c'est cette famille-là. Donc je ne spoilerai pas parce que ça c'est un petit peu dommage de révéler en fait eh bien les petits détails de ce film. Mais en tout cas dans l'incarnation même du personnage, Léa Drucker est vraiment impeccable elle vient véritablement s'extraire d'une mécanique administrative lourde, qui pourrait être d'ailleurs assez soporifique hein, pour le spectateur. Eh bien, pas du tout. On est vraiment happé par progression et évolution de cette enquête, même si, bien sûr, C'est un petit peu téléphoné dans le sens où on sait un petit peu où veut venir, où veut aller, où veut nous amener Dominique Moll. L'important de ce film, c'est que ce n'est pas un film à la charge, en fait, de la police. Sa distanciation, en fait, du réalisateur fait que il n'y a pas véritablement de parti pris. C'est qu'il y a quand même une neutralité, et ça, c'est important parce que je pense que ça aurait nuit véritablement, à l'objet même de son film et à l'objectif aussi qui s'était fixé. Donc, franchement, c'est vraiment, en tout cas, un film qui a interpellé le public. C'est un film qui marche extrêmement bien parce que tout simplement c'est aussi il fait écho à je dirais une sorte de mécontentement à ce moment-là, mais aussi avec donc la grande mobilisation des gilets jaunes. Donc tout cela, on sent que il y a quand même quelque chose qui touche en fait la population et qui en fait, en termes de réflexe, eh bien se déplace pour aller voir en fait le contenu de ces films. Donc ça a été le cas pour Dossier 136. C'est le cas aussi d'un film peut-être dont on n'a pas parlé, mais c'est Les Braises aussi, qui aborde en fait cette mobilisation des gilets jaunes. Donc franchement, ça, on voit que ça, c'est un thème qui passionne en tout cas la population, franchement c'est très très bien réalisé, extrêmement bien documenté. C'est peut-être d'ailleurs dans le fonctionnement, on est assez proche d'ailleurs dans le déroulement de l'enquête de la nuit du 12. C'est un petit peu la même chose. Moi, j'avais bien aimé La Nuit du 12 dans ce côté de cette mécanique comme ça, très bien huilée des méandres d'une enquête. Et là, c'est pareil, à part que là, pour le coup, c'est plus administratif, étant donné que c'est confié, à l'IGPN.
Est-ce que c'est pas un peu trop dossier de l'écran, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire un peu, il a une démonstration, ça, donc on est un peu programmatique en fait, un peu scolaire finalement, enfin dans la mise en scène.
Non, pas vraiment. Là vraiment on est, moi j'ai pas ressenti en tout cas ce phénomène-là. Moi j'étais happé par le déroulement. Alors c'est un peu brutal hein, d'entrée parce que bon. Il n'y a pas véritablement d'introduction. On est parachuté directement dans un bureau, le bureau de Léa Drucker. Donc c'est un petit peu abrupt, je dirais. Mais après, voilà, on se laisse vraiment guider par cette histoire. Franchement, moi en tout cas, je trouve que c'est une belle réussite. Alors c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est une belle réussite.
Eh bien, nous vous conseillons d'aller voir ce dossier 137 de Dominique Moll avec une formidable Léa Drucker. On change tout de suite de registre avec un film, cette fois-ci américain, une super production, c'est Wicked 2 for Good, où on retrouve Ariana Grande, Cynthia Erivo et Jeff Goldblum dans les rôles principaux. Donc c'est la suite de cette comédie musicale à succès à Hollywood, à Broadway, une comédie musicale qui est d'ailleurs qui fonctionne toujours, hein, qui fonctionne toujours à Broadway, et alors qui est inspirée à la base d'ailleurs d'un roman. Il y a d'abord eu un roman qui revisite l'histoire du magicien d'Oz, et puis ensuite donc une production scénique à Broadway, avant de devenir, avec Disney, c'est une production Disney, un film. Alors un film en deux parties. Alors si on additionne les deux parties, on n'est pas loin de 5 heures de film quand même, parce que chaque film fait à peu près 2h30. Bon là, on est à 2h17, je crois, pour cette suite. Alors, on peut dire que moi, j'avais plutôt bien aimé le premier volet, même si j'avais apporté quelques réserves. Notamment, j'avais trouvé que les décors, les costumes, étaient quelque peu kitsch. Bon, si on n'aime pas trop cette esthétique, on va peut-être passer à côté du film. À vrai dire, déjà, Le Magicien d'Oz, le film original de Victor Fleming, il y avait quand même une esthétique assez particulière. Donc, on reste quand même dans cet esprit, dans ce deuxième volet. Et il y a aussi aussi bon quelques facilités scénaristiques aussi que je trouve un petit peu dommage dans cette suite. Mais enfin bon, ça reste une fantasy, donc on va pas trop se poser de questions et on va retrouver donc l'univers de la méchante sorcière de l'Ouest qui finalement n'est pas si méchante que ça, parce que finalement quel est le sujet de Wicked et notamment de cette deuxième partie, c'est la vérité. Qui dit la vérité? Qui détient la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Ça serait presque un questionnement philosophique que ce film, parce qu'effectivement, ce que cherche à faire Elphaba, entre guillemets la méchante sorcière de l'Ouest, c'est de démontrer en fait que le magicien d'Oz est un imposteur. Voilà, et en fait, finalement, c'est un dictateur qui ment à ses sujets. Bon, je ne vais pas divulgâcher tout ça, mais enfin, c'est vraiment ça qui fait que le film, évidemment, avec cette comédie musicale, est vraiment intéressante. Et du coup, c'est intéressant aussi parce que on voit bien que la petite Dorothée, qui cette fois-ci intervient, la Dorothée qui, dans le film original, est jouée par Judy Garland, est instrumentalisée par le magicien pour tuer la méchante sorcière, parce que c'est ça en fait. Je trouve ça abominable qu'on demande à un enfant, une enfant, de tuer quelqu'un, quel qu'il soit. Donc ce magicien, d'ailleurs parfaitement interprété par Jeff Goldblum, finalement est totalement abominable. Donc ce film est quand même assez intéressant dans son propos, et comme dans le premier volet, magnifiquement interprété par tous ces interprètes, notamment Ariana Grande. Alors moi je ne connaissais pas vraiment Ariana Grande, pour moi c'est la chanteuse pop que bon, c'est pas trop ma tasse de thé, voilà. Mais là quand même, il faut quand même rendre hommage à Stephen Schwartz. Stephen Schwartz, c'est l'auteur des chansons et des musiques de Wicked, et je trouve que même si certains disent oui, bah, toutes les chansons se ressemblent plus ou moins, bah, je ne sais pas, peut-être qu'elles se ressemblent, mais enfin, moi j'ai été scotché du début à la fin, parce que je trouve que c'est quand même très très bien écrit. Alors en plus, le ticket gagnant, c'est que Stephen Schwartz s'est adjoint la collaboration de John Powell. John Powell qui est un excellent compositeur de musique de film, et je pense que les deux, ils arrivent à développer un univers musical cohérent, qui est vraiment qui accroche. Et à plusieurs reprises dans le film, j'avoue que j'étais quand même, j'ai eu la petite larme qui a coulé, surtout à la fin d'ailleurs. À la fin, ouais, j'ai dû sortir les Kleenex, hein, parce que c'est quand même assez émouvant. Bon, bref, peut-être que je suis un peu fleur bleue, mais moi, j'avoue que j'ai beaucoup marché. Et cette deuxième partie est quand même beaucoup plus sombre, plus évidemment plus dramatique. Et du coup, bah, j'ai quand même préféré cette deuxième partie à la première. Et au finish, bah, on a quand même voilà, une comédie musicale qui se tient. Il y a quand même de belles chansons. Elles sont voilà, très bien interprétées. Il y a des chorégraphies également très bien réglées. Donc on est dans le show à l'américaine. Mais il faut se laisser aller. Il faut se laisser porter. Il ne faut pas se poser de questions. Et des questions, on s'en pose quand même. Parce qu'il y a cette question de la vérité. C'est comme cette vérité, c'est aujourd'hui au centre, on le voit bien, c'est fondamental dans le monde dans lequel on vit, parce qu'il y a des vérités, des contre-vérités, il y a des gens qui fabriquent à la chaîne des contre-vérités, c'est vraiment, on est là-dedans. Donc, finalement, je trouve qu'on a là un bon divertissement, à condition évidemment d'aimer la comédie musicale, d'aimer un peu le kitsch, il faut bien le dire. Même si, ben, dans ce deuxième épisode, on est dans des enjeux quand même qui font qu'on oublie un peu ce décorum un peu particulier. Et puis voilà. Et puis bon, ben, encore une fois, chapeau à Cynthia Erivo et Ariana Grande qui interprètent les chansons du film. Donc moi je vous conseille d'aller voir ce Wicked 2. J'avoue que j'étais un peu, je pensais pas aimer autant la suite, je vous le dis tout de suite. Ben finalement ça m'a bien accroché. Et puis je crois qu'on a besoin aussi de merveilleux, on a besoin de magie quelque part. Voilà, alors après ce dossier 137 et après la magie de Wicked For Good, Wicked 2, on va changer là encore de registre, mon cher Laurent, avec le film dont tu nous parles tout de suite.
Oui, avec ce film de Rebecca Zlotowski, Vie privée, avec Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira. Bien que, bon, Virginie Efira est quand même assez peu présente hein, quand même dans le film. Et donc, on le présentait il y a 3 ans, et Vie privée en apporte d'ailleurs la confirmation. Il y a dans le cinéma de Rebecca Zlotowski un avant et un après. Les enfants des autres, sa plus belle réussite à ce jour. La première fois où elle a osé fendre l'armure, laissant un romantisme échevelé et une émotion à fleur de peau prendre la place d'une cérébralité jusque-là dominante, c'est de cette brèche que naît Vie privée, son film, sans doute le plus déroutant, d'ailleurs à plusieurs niveaux. Et celui où ce que les, je dirais, les personnages vivent à l'écran, cette difficulté à distinguer le vrai du faux, dialogue d'ailleurs avec sa propre métamorphose au fil du récit, et dans son entame, Vie privée prend en effet des allures de sorte de cluedo. Liliane, donc une psychiatre reconnue, se persuade à la mort soudaine de l'une de ses patientes qu'il s'agit d'un meurtre et décide de mener sa propre enquête. Sauf que peu à peu, eh bien, cette traque du tueur va se muer en comédie, assumant un côté un petit peu burlesque, voire totalement perché, notamment d'ailleurs dans les scènes d'hypnose qui ont perdu en route certains membres de la rédaction du film. Et donc, franchement, moi aussi, je m'y suis perdu. Voilà. Pour tout vous dire, même si on suit le film en filigrane, le pitch du film, franchement, je m'y suis énormément perdu, voire ennuyé.
Ça, c'est ennuyeux.
Eh ben oui. le Cluedo s'est transformé, je dirais, dans une sorte de narcolepsie assez imbuvable, hein, faut le dire, parce que tant sur le plan scénaristique, interprétation, c'est quand même bien en deçà de ce que nous avait en tout cas habitué Rebecca Zlotowski. Franchement, moi j'ai pas du tout cru à l'histoire depuis le départ, hein, y a un problème scénaristique, mais aussi jeu d'acteur. Pourtant, il y a quand même une très très belle distribution.
Et oui, Jodie Foster.
Jodie Foster, mais alors là, par contre, c'est peut-être là où le bas blesse quand même le plus. Hein. On a l'impression qu'elle n'est pas du tout concernée par son personnage. Enfin, franchement, c'est assez plat, sans relief. Peut-être, je dirais que le meilleur dans tout cela, c'est Daniel Auteuil pour Virginie Efira. Et Dieu sait si j'apprécie Virginie Efira, je me pose la question de pourquoi elle a été en fait présente dans ce projet, parce que c'est quand même, ça ressemble quand même à une véritable galère, voilà. Et donc jusqu'au final, où franchement, eh bien, on est quand même, où on aborde une certaine satisfaction que le film soit terminé, parce que franchement, il n'y a pas grand chose qui m'a vraiment, en tout cas, gardé éveillé dans ce film, parce que l'histoire est quand même très banale. Il y a d'autres films, en tout cas, qui sur le sujet, qui ont véritablement brillé plus que sur, en tout cas, Peur primale, par exemple, hein, voilà, est un bon exemple. Là, pour le coup, là, c'est fade. Mais c'est vraiment fade de chez fade. J'ai du mal à trouver un point positif dans le film, voilà, pour tout vous dire.
Ah oui, effectivement.
c'est assez rare, parce qu'on voilà, toujours on défend quand même une œuvre. Mais dès le départ, on sent que voilà, il y a quelque chose qui cloche. Alors il y a aussi, alors ce qui est peut-être le plus intéressant dans le film, c'est qu'en fait c'est l'ex-mari qui est joué par Daniel Auteuil, parce qu'en fait, le film, eh bien, c'est une sorte de, je dirais, de protagonistes, hein, mais qui se sont séparés. Mais on sent que peut-être, voilà, il y a peut-être manière à ce que ces deux, eh bien, revivent ensemble. Voilà. Mais bon, après, outre cela, je dirais, l'énigme policière, pour ma part, est très accessoire, alors que c'est quand même le centre du film, et ne m'a pas du tout, en tout cas, attiré de bout en bout. Donc franchement, c'est un film très passable, et que bah, je vous invite peut-être à découvrir, parce que si vous... Je pense que dans la démarche, et je crois qu'il y a le public s'est déplacé, parce que pour aller voir, entre autres, Jodie Foster, qui se fait quand même assez rare sur le grand écran. Mais franchement, largement déçu par ce film et par la prestation des différents acteurs. Voilà.
Merci Laurent pour ta sélection du jour. Voilà, mais allez voir donc ce dossier 137 et allez vous divertir en allant voir Wicked. On peut être un tout petit mot du film italien de Mario Marton, Fuori, avec Valeria Golino, Matilda de Angelis et Elodie dans les rôles principaux. Le film nous entraîne à Rome dans les années 80 et on fait connaissance avec Goliarda Sapienza, une écrivaine qui travaille depuis 10 ans déjà sur ce qui sera son chef-d'œuvre, L'art de la joie. Mais à l'époque, son manuscrit est rejeté par toutes les maisons d'édition. Désespérée, Sapienza commet un vol qui lui coûte sa réputation et sa position sociale. Elle est incarcérée dans la plus grande prison pour femmes d'Italie. Et là, Goliarda va rencontrer des voleuses, des junkies, des prostituées, mais aussi des politiques. Et après sa libération, elle va continuer à rencontrer ses femmes et développer avec l'une d'entre elles une relation qui va lui redonner le désir de vivre et d'écrire. Et cette relation qui est vraiment au cœur du film. Donc les deux comédiennes, alors Valeria Golino bien sûr joue le rôle de Goliarda Sapienza. Moi, que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que l'un des mérites du film, c'est quand même de nous faire découvrir cette écrivaine qui est considérée comme l'une des plus importantes écrivaines italiennes du XXe siècle et dont l'œuvre majeure, L'art de la joie, ne sera publiée qu'à titre posthume d'ailleurs. Hein, donc ça, c'est dit dans le film. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au générique de fin, on voit une image d'archive avec on voit la véritable Goliarda Sapienza interviewée sur un plateau télé. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, on découvre quand même voilà ce personnage et qui va donc entretenir une relation homosexuelle, on va dire même avec l'une de ses anciennes détenues, voilà, qui est interprétée ici par Matilda de Angelis, qui est vraiment formidable. Alors en plus, elle joue très très bien, mais elle est d'une beauté hallucinante, et je dois dire que rien que pour elle, on peut se déplacer, on peut aller voir le film. Voilà. Parce que, bon, sinon, le film en tant que tel, donc le film de Mario Marton, bon, il est très bien cadré, très bien, voilà, bon, c'est très professionnel, il n'y a pas de problème, mais je trouve que quand même, le film est peut-être un peu académique quand même, même s'il y a de beaux moments de mise en scène. Le film peut être aussi un peu trop long, parce que le film dure bien 2 heures, hein, voilà, et c'est vrai que le film est un peu long. Le scénario, je trouve que le plus intéressant dans cette histoire, c'est vraiment cette relation entre ces deux femmes, et elle monte en intensité, mais un peu trop lentement. Je trouve que le film a du mal à décoller, et c'est que dans vraiment le dernier tiers du film, on ressent toute l'intensité de cette relation. Voilà, donc c'est un petit peu dommage que finalement le film commence à être intéressant au moment où il va se terminer. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc un film, voilà, un rythme inégal, et puis surtout ce personnage de Goliarda Sapienza, c'est vrai qu'on apprend des choses sur elle, mais le personnage reste quand même finalement assez énigmatique. Ça, c'est un peu dommage, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas effectivement les cartons d'explication au pré-générique et puis peut-être aussi ces images d'archives à la fin, le personnage, on n'apprend pas grand-chose sur lui, et du coup, le film s'appelle Fuori, ce qui veut dire dehors, mais c'est vrai que le scénario fait que nous aussi, spectateurs, en tout cas en ce qui me concerne, je suis resté un petit peu dehors. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, je suis un petit peu partagé sur ce film que j'avais beaucoup d'attentes aussi, mais j'en suis ressorti quand même un petit peu déçu. Et voilà, mais j'ai pas détesté le film. Je ne peux que vous conseiller d'aller le découvrir quand même, ne serait-ce que par ces deux actrices qui sont vraiment sublimes, Valeria Golino qu'on a plaisir à retrouver, et puis Mathilda De Angelis. Voilà, et Élodie. Alors Élodie, je précise tout de suite, hein, c'est pas la Élodie qu'on a connue dans les années 90, qui était la star des films X de chez Marc Dorcel dans les années 90. Donc c'est pas la même, tout de suite. Voilà, donc allez voir ce film Foirie de Mario Marton, mais avec ces quelques réserves que j'ai apportées, c'est vrai que ça a un petit peu de mal à démarrer, ça manque un petit peu de rythme, et puis voilà, manque d'intensité, sauf sur le dernier tiers du film. Mon cher Laurent, on va passer une toute petite page musicale, et ensuite on va parler des films qui vont sortir sur les écrans mercredi. Alors, Laurent, je vois que tu t'affaires aux manettes, tu fais des essais. J'entends de la musique des fois en fond sonore dans mon casque. Alors, que nous as-tu préparé ?
Eh bien, on va écouter la musique d'un film oui. qui a été réalisé en 1967 par Andrew McLaglen. Un western en fait, hein, pour tout dire. Et donc, ce western, eh bien, c'est un grand classique qui s'intitule The Way West, la route de l'Ouest, ouais. Avec une distribution assez phénoménale parce qu'il y avait Kirk Douglas, Robert Mitchum, Richard Widmark, Lola Albright, entre autres. Et donc, Michael Whitney, Connie Sawyer, Elizabeth Fraser, John Mitchum, c'est plus qu'une brochette, hein, c'est vraiment un casting d'enfer pour une grosse production. Et la musique était signée par Bronislaw Kepper, et on va écouter, je dirais, le final. Alors 5 petites minutes, hein, c'est pour ça qu'on va essayer de se précipiter un petit peu, parce qu'il faut qu'on vous annonce les sorties de la semaine, et dirigé par un autre grand compositeur qui n'est autre que André Prévan. Voilà.
Ça c'est 5 étoiles pour finir l'émission là.
Ah bah oui. Donc voilà, c'est parti, La Route de l'Ouest, composée par Bronislaw Kepper.
C'était donc la musique de Bronis Le Capper, dirigée par André Prévin pour le film La Route de l'Ouest, mise en scène par Andrew McLaglen. Et maintenant, oui, mon cher Laurent.
On y était presque, d'ailleurs.
Oui, d'accord. Et maintenant, on va vous parler des films qui vont sortir sur les écrans ce mercredi 10 décembre. Et je me tourne vers Laurent qui a sous les yeux un listing, j'imagine, bien fourni.
Oui, comme d'habitude. Hein, Il y a 15 sorties.
Ah oui, quand même.
Ouais, 15 sorties, plus 2, ça fait 17.
Voilà. Ah oui, tu comptes bien.
parce qu'elles sont décalées, tout simplement. Et alors, le 6 décembre, donc c'est déjà sorti d'ailleurs, pour tout dire. Ce qu'on n'a pas parlé la semaine dernière, c'est Jujutsu Kaisen Exécution de Shuta Gashodono.
Oui, c'est l'adaptation au cinéma du fameux manga Jujutsu Kaisen qui parle d'exorciste. Mais c'est sympa, ça. Voilà, je crois que ça va avoir un grand succès.
Aujourd'hui, il y avait une sortie, c'était le film de Michel Condra, Je suis l'Immaculée Conception. Donc qui sort aujourd'hui. Alors tout ça, ce sont des sorties nationales. On le précise à nouveau parce que ça sera peut-être des films que l'on n'aura pas l'occasion de voir sur Limoges même. Et donc à partir de mercredi, on pourra voir le film de James Hutt à la poursuite du Père Noël. Un autre film de Isabella Tant, Alice par-ci par-là. Le film de Benoît Delépine, Animal Totem, dont tous ces films sortent mercredi. C'est un an après, en fait, après Gustave Kerven et son magnifique Je ne me laisserai plus faire sur Arte, voici à son tour Benoît Delépine, seul maître à bord de cet animal totem, où on a le plaisir de retrouver ce qui fait le sel et le piment de leurs œuvres en duo, cette manière d'entremêler l'humour, la poésie et politique au fil de récits sortant des sentiers battus. Et donc c'est une sorte de road movie qu'est en fait Animal Totem. Voilà. Donc ça sort mercredi. La suite, si on peut dire, d'une comédie qui a quand même pas mal marché, c'est Chasse gardée, cette fois c'est numéro 2, de Frédéric Forestier. Autre sortie de Jérôme Bonnel, La Condition. Est-ce que tu as un petit quelque chose?
La Condition, eh bien c'est l'histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André en 1908. Et c'est l'histoire également de Victoire, de l'épouse modèle qu'elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare, mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits.
Ensuite, autre film de Dominique Fishback, c'est Elle n'entend pas la moto, donc en fait qui est un documentaire assez bouleversant, né d'une immersion sur 25 ans dans une famille dont deux des trois enfants sont sourds. C'est un grand film sur la résilience. Autre film, L'élu, Dosgood Perkins.
Ah, ça c'est peut-être pas mal parce que c'est un film fantastique, assez terrifiant, soi-disant. Voilà, par le réalisateur Oswald Perkins qui avait fait The Monkey récemment, et puis Long Legs également.
Film de Nora Philip, Girls for Tomorrow, donc qui sort là encore mercredi, qui ça se passe en fait en 2015. C'est l'histoire de Nora Philip qui débarque à New York avec un bébé sous le bras et qui rencontre qui rencontre au Barnard College 4 étudiantes et leur promet en fait de les filmer jusqu'en 2045. Et donc 10 ans après le début de l'entreprise, eh bien le résultat peine à convaincre, trop de parcours à raconter, trop d'événements historiques à synthétiser. Là encore, c'est un documentaire qui sera donc diffusé à partir de mercredi. Ensuite, un film de Damien Dorsaz, Lady Nazca. Donc là encore...
C'est un film qui nous entraîne au Pérou en 1936, l'histoire de Maria, une jeune enseignante qui va découvrir les fameuses inscriptions dans le désert de Nazca et qui va essayer de sauvegarder, hein, ça va être le combat de sa vie, de sauvegarder toutes ces inscriptions énigmatiques, hein, dans ce désert de Nazca. Donc ça peut être assez intéressant.
Autre film, un film de franco-belge, de Nicolas Quetel, c'est Louise, avec Diane Rouxel et Cécile de France. Nicolas Quetel qui raconte que Louise est née d'une image qui le hante, deux gamines recroquevillées dans un escalier qui entendent leur mère se faire battre par son conjoint, soit le point de départ de ce premier long et de la fuite d'une des deux sœurs pour entamer une nouvelle vie sous une autre identité. Autre film de Anna Cazenave Cambé, Love Me Tender, qui sera projeté mercredi. Love Me Tender, qui est une adaptation du livre de Constance Debray sur son combat pour récupérer la garde de son fils, avec une Vicky Krieps, une fois encore, assez magistrale. Autre film à partir de mercredi, Mission Père Noël, de Damjan Mitrevski. Et aussi un film qui, vous avez certainement vu la bande-annonce, parce que bon, elle a tourné quand même pas mal, d'Amin Adjina, La petite cuisine de Mehdi, qui sort donc mercredi, qui raconte l'histoire de Mehdi qui travaille comme chef au restaurant Le Baratin, un nom qui lui va bien, tenant depuis toujours donc le rôle du fils algérien parfait auprès de sa maman très traditionnaliste, et il lui a caché son amour pour la gastronomie française et aussi pour Léa, qui est jouée par Clara Bretot. Voilà. Et pour en terminer, un film de Bigan, c'est Résurrection. Résurrection, qui raconte, après un grand voyage donc vers la nuit, qui a été réalisé en 2018, eh bien, on se demandait quel type d'artiste était au juste Bigan. Eh bien, c'est un nouveau prophète, ou son parfait contre-type, un auteur qui n'aurait pas grand-chose à dire avec sa caméra stylo et nous enfumerait dans une couche de virtuosité factice. Et bien, ce Résurrection a le mérite de lever une partie du voile. C'est une production franco-chinoise avec Jackson Yi, Shu Qi et Mark Chao.
Oui, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se réincarne dans 5 époques. Et tandis que le XXe siècle défile, une femme suit sa trace. Un film assez long, hein, 2h40 quand même. Oui. Mais bon, à découvrir sans doute.
Bon courage. Eh bien voilà, c'en est tout, on a fait quand même le tour. Hein,
c'est
et,
pas mal.
Il y a 17 sorties, c'est, voilà, c'est quand même assez prolifique, je dirais.
Oui, oui. Eh bien, voilà, il est 22h36, il est donc l'heure de nous quitter. Nous allons vous souhaiter une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de RTF. Une excellente semaine dans les salles de cinéma. Allez-y, voilà, il y a des dessins animés, des films dramatiques, des films fantastiques. Il y en a pour tous les goûts. Et vive le cinéma. Et puis je vous rappelle, hein, la projection jeudi 11 au Lido, à 20h30, du film de Jack Arnold, L'homme qui rétrécit. Et oui, la version originale de 1957. Et puis vendredi soir, la soirée Damien Chazelle avec la projection de Whiplash et de La La Land. Voilà, et bien nous allons nous quitter. Laurent, je te souhaite une excellente fin de soirée également, une excellente semaine.
Oui, oui, et on va se quitter, on va essayer, parce que voilà, oui, on va essayer de se quitter avec en tout cas une musique signée Paolo Buenvino,
oui.
pour Il Gatto Pardo, Le Guépard.
Le Guépard, ah, oui, alors ça c'est l'adaptation du Guépard, mais pour la télé, je crois,
oui,
dans
fait.
Une forme d'un superbe téléfilm, et c'est Paolo Buenvino, qu'on aime beaucoup d'ailleurs, qui a eu la lourde charge de succéder à Nino Rota,
voilà.
Bien sûr.
Et on va écouter un thème qui s'intitule Les Terre del Fronte, et en version live. Voilà. En fait, ce n'est pas la version enregistrée de l'album, hein, mais une version live. Voilà. Alors, on est parti pour écouter ça. Ça dure à peu près 2 petites minutes. Et puis, on va se quitter avec donc cette musique. Voilà.
Et on vous dit à la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine. Et allez fréquenter les salles obscures, hein, parce que là, voilà, ça déboule plein pot pour les fêtes. Voilà. Vous avez l'embarras du choix. Et on espère vous y voir toute la semaine. On pointera, de toute façon.
Oui, on y sera. Ne vous inquiétez pas.
Allez, tout de suite. Ciao, ciao. Donc, Le Guépard.